Il y a 10 ans paraissait un livre qui fut vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Ce livre, édité par La Découverte, s'intitulait Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Et il racontait comment l'art de la narration et la mise en récit avaient envahi toutes les sphères de la société, jusque et y compris la communication politique. Cet essai connut un retentissement particulier, au point que le mot même est passé dans le langage courant et entrera cette année dans Le Petit Robert. 10 ans et un roman plus tard, son auteur publie un nouveau livre que les éditions Fayard présentent sur la couverture comme la suite de Storytelling. Autant dire qu'il risque de faire un peu de bruit dans Landerneau. Il y est question de l'élection de Donald Trump, de la crise européenne, de la victoire d'Emmanuel Macron, du terrorisme et d'une certaine spirale du discrédit. Christian Salmon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Ce livre qui paraîtra dans quelques jours donc chez Fayard s'intitule « L'ère du clash ». C'est toute l'actualité réunie dans un livre ?
En tout cas, le phénomène du clash apparaît tout au long, depuis la crise de 2008 surtout, c'est-à-dire que la crise financière est le facteur déclenchant, mais aussi l'apparition, le développement des réseaux sociaux qui ont modifié les conditions, techniques de la conversation nationale, et qui aboutissent au fait que justement ce storytelling qui était devenu un peu le mode dominant de la conversation, c'est-à-dire que chacun étant, qu'il soit une marque, un individu, une entreprise, un candidat politique, chacun devait, pour se présenter, se transformer ou proposer une histoire, eh bien ce phénomène, cette inflation de récits ou de petites histoires dans les médias et dans l'espace public a eu des effets paradoxaux. De même que le succès de mon livre a eu un effet paradoxal, c'est la banalisation de ce concept de storytelling, mais d'autres effets paradoxaux, c'est-à-dire que l'inflation d'histoire, c'est un peu comme l'inflation monétaire, c'est-à-dire que si l'inflation d'une monnaie ruine la crédibilité, la confiance dans cette monnaie, défait sa valeur, en quelque sorte décompose sa valeur, l'inflation de récits, de petites histoires a le même effet, à la fois sur le narrateur, sur les narrateurs de ces histoires qui perdent tout crédit, la confiance qu'on fait aux histoires qui sont racontées.
Donc en gros, quand Fayard écrit sur la couverture, sur un bandeau rouge, la suite du storytelling, c'est surtout la fin du storytelling d'une certaine façon, puisque en fait vous pronostiquez l'achèvement de cette narration politique, mais effectivement qui était un peu partout. Alors à quoi est dû, en dehors de cette inflation de storytelling dont vous parlez, Christian Salmon, à quoi est due la fin de cette ère particulière qui a connu, dites-vous, son apogée au moment de l'élection d'Obama, donc en France aussi de Nicolas Sarkozy?
Tout à fait. En fait, on se rend compte, je me suis rendu compte, en tout cas au cours de ces 10 dernières années, que le storytelling, loin d'offrir une possibilité de communication ou une nouvelle forme de conversation politique ou de délibération publique, était en fait un symptôme de ce discrédit déjà. Mais 2008, en fait, c'est le zénith avec Obama du storytelling.
Pourquoi,
mais
c'est pourquoi Obama
Alors Obama, vous savez que il y a depuis ces deux mandats, Obama est le premier ex-président des États-Unis à signer un contrat avec Netflix et à devenir en quelque sorte un narrateur en dehors même de la politique. Et il s'en est expliqué, je le raconte dans le livre, en disant que au fond il avait toujours été un raconteur d'histoires et qu'il n'aurait jamais été président s'il n'avait pas raconté des histoires.
J'ai la page sous les yeux, c'est très intéressant ce discours. C'est le 26 mai 2018 au cours d'une conférence à Las Vegas. Barack Obama s'exprime donc sur l'accord qu'il a passé avec Netflix et il dit, ouvrez les guillemets, « Je n'aurais jamais été président si je n'avais appris très tôt dans ma carrière l'importance des histoires. Chacun d'entre nous a une histoire qui est sacrée. Nous sommes tous humains et pourtant, actuellement, nous avons des récits concurrents. Je continue de croire que si nous écoutons les histoires des uns et des autres et que nous nous reconnaissons les uns les autres, alors notre démocratie fonctionnera. Face aux problèmes posés par la mondialisation et l'immigration, il existe deux façons de réagir. Soit nous régressons vers le tribalisme, la pureté ethnique, soit nous établissons des institutions civilisation basée sur le droit et la dignité qui est due à chaque personne. En ce moment, il y a un clash entre ces deux façons de voir le monde. C'est ce clash que vous reprenez aujourd'hui.
Vous savez, quand j'avais fait l'enquête qui avait abouti au livre Storytelling, j'avais commencé par mener l'enquête dans le monde du marketing. Parce que c'est le monde
ça venait de là.
Ça venait de là. Et en général, les théoriciens ou les praticiens du marketing, enfin les gourous du marketing, ont une intuition très fine de ce qui est en train de se passer dans la société. Eh bien aujourd'hui, on a exactement ce même phénomène. Je cite dans le livre un de ces gourous de conseillers de start-up, John Winsor, qui écrivait récemment dans une tribune publiée dans Forbes, le marketing a besoin d'une autre philosophie que le storytelling. La raison ? Trop d'informations rivalisent avec les histoires qu'une marque peut raconter. Et donc, l'efficacité de ces histoires de produits, de marques, d'entreprises, est en quelque sorte contestée par la compétition de ces autres histoires qui circulent.
Trop d'histoires tuent les histoires.
Exactement. Bon. Et en plus, dit-il, c'est, sous Trump, les choses se sont encore aggravées avec les fake news, ce qui fait que les histoires sont de moins en moins crédibles.
Donc vous nous racontiez, Christian Salmon, une histoire qui, disons, s'était déroulée pour le storytelling entre les années 90, peut-être apogée 2001-2008, et puis avec l'ère du clash, on est entré dans une nouvelle époque de 2008, au moment où justement de l'apogée du storytelling avec la victoire d'Obama, c'est aussi la crise financière et donc c'est aussi le début de la fin du storytelling. Donc 2008-2018, nous sommes dans l'ère du clash.
Absolument.
Alors qu'est-ce que c'est que ce clash ? Comment ça se manifeste concrètement ? C'est quoi ce discrédit dont vous parlez ?
Écoutez, je crois que la crise de 2008 a eu un effet considérable aux États-Unis d'abord, mais aussi dans l'ensemble de l'Occident euro-américain. C'est que toute une série de récits qui étaient des récits partagés, qui étaient des récits crédibles, nés depuis une trentaine d'années, selon lequel il y avait un ruissellement de la richesse, selon lequel on pouvait quand même, en système néolibéral, y trouver son compte, acheter un appartement, une voiture, s'endetter. En 2008, avec la crise des célèbres des subprimes, cette histoire s'effondre. Les gens, le décrochage des récits officiels qui s'effectuait, vous voyez ce que raconte Barack Obama, c'est frappant. C'était le discours de Nicolas Sarkozy. Je rencontrais Franck Louvrier, le conseiller communication de Sarkozy, il y a quelque temps dans une émission de la chaîne parlementaire, et il me disait, à ma grande surprise, à quel point le livre Storytelling leur avait servi en quelque sorte de guide. Hein, c'est-à-dire que la volonté de raconter des histoires, l'intégration, la foi dans le système démocratique s'est effondré. Et d'ailleurs, le conseiller, le stratège de Trump, Steve Bannon, l'explique très bien. C'est au moment où on a demandé, en fait, aux individus, aux citoyens, de résoudre la crise financière en renflouant les banques via les pouvoirs d'État, que brusquement, eh bien, les futurs gilets jaunes se réveillent et ne croient plus dans la parole publique. Donc, ce discrédit vient à la fois de la crise de 2008. Mais également, il ne faut pas oublier cet élément techno-sociologique que sont les réseaux sociaux qui apparaissent vers 2005 et donc ils vont amplifier le phénomène du discrédit par cette pluralité, cette possibilité pour chacun d'être un narrateur, d'où la compétition qui s'installe entre de multiples narrateurs à tout instant. C'est-à-dire que, et c'est là le paradoxe du storytelling mis au service des réseaux sociaux, c'est que un tweet efface l'autre. Le tweet est un raccourcissement du format, l'accélération, c'est-à-dire que l'économie discursive, l'économie des discours sur Internet, un des spécialistes, Eugénie Morozov, dit aujourd'hui, il y a une nouvelle, les réseaux sociaux ont créé une nouvelle version de la vérité. La vérité, c'est ce qui attire le maximum Dieu, de couple Dieu. C'est-à-dire que le phénomène du clash fait que à l'histoire se substitue la transgression. On n'est plus dans des séquences plus ou moins longues où on a le temps de développer une intrigue avec ses différentes étapes, ses obstacles, ses résolutions. Enfin, la bonne vieille histoire avec un début, un milieu et une fin n'est plus adaptée à la vitesse des échanges.
C'est pour ça que vous dites la volatilité des énoncés prime désormais sur leur validité.
Exactement.
Christian Salmon, mais ce clash évoque nécessairement, ce clash qui est votre hypothèse, hein, donc dans l'ère du clash, évoque nécessairement l'idée d'un conflit, l'évoque l'idée d'une guerre, d'une guerre de tous contre tous, de la guerre des récits dont parle Obama dans le discours que nous avons cité tout à l'heure. Donc c'est quoi? C'est la fin du politique ou c'est une nouvelle ère du politique pour vous?
En tout cas, c'est une... Peut-être pas la fin du politique, mais c'est en tout cas une ère du politique qui est marquée par cette chose étonnante qui est que les narrateurs politiques n'ont plus de crédit.
Mais en même temps, on les voit tous, les narrateurs politiques. Alors, on parlera tout à l'heure, bien entendu, d'Emmanuel Macron et de la séquence actuelle, mais les narrateurs politiques, on les retrouve, par exemple, sous la forme d'experts en communication sur tous les plateaux télé qui viennent encore commenter l'actualité, donner leur interprétation et leur histoire. Ils ont remplacé progressivement les politologues sur les plateaux télé, mais ils sont partout. Donc la communication politique, elle n'est pas complètement terminée encore.
Ah non, je ne dis pas qu'elle est terminée. Je pense qu'elle est marquée d'une part par cette inflation d'histoire qui se contredisent. C'est-à-dire qu'on est dans une crise déflationniste dans le sens de l'économie des discours. C'est-à-dire que les narrateurs sont décrédibilisés, les conseillers politiques prennent de plus en plus l'ascendant sur les hommes politiques, et au fond, ce discrédit est aussi lié au phénomène que il n'y a plus d'histoire qui nous permette de comprendre ce qui est en train de se passer.
Et ce qui reste peut-être de spin doctors ou de communicants politiques ou d'experts en communication, c'est peut-être l'ultime résistance, dites-vous, dont le nouveau monde ne veut plus, nouveau monde qui est peut-être incarné aujourd'hui, et je mets tout ça bien sûr en conditionnel et sous votre contrôle, Christian Salmon, par ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'il est une réplique de ce qui s'est passé aux États-Unis, puisque tout part des États-Unis dans votre livre Storytelling comme dans l'ère du clash? Est-ce que ce serait une réplique en France de ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump?
C'est non seulement aux États-Unis, mais en Italie et dans différents pays européens. Ce qu'on constate, c'est que les mouvements sociaux traditionnels, les manifestations formelles, Bastille, République, elles-mêmes sont frappées de discrédit. Parce que quand je parle du discrédit du politique, c'est aussi le discrédit de tous les narrateurs. Regardez, on est tous témoins de ça.
Les Gilets jaunes voudraient être leur propre narrateur ou donner leur propre narration.
Je pense qu'ils n'ont pas de grand récit, en fait. Leur récit, c'est plutôt, si vous voulez, une sorte de spéculation qui se manifeste à travers le... comme ils fonctionnent un peu comme une agence de notation, si vous me permettez cette métaphore, qui note chaque semaine, à chaque acte de la semaine, qui note le monde politique, le président de la République. C'est pour ça que si vous regardez les motivations ou les revendications des Gilets jaunes, ce sont des revendications plutôt négatives. Hein. Ce sont on appelle à la démission, on appelle au référendum. Qu'est-ce que le référendum d'initiative citoyenne, sinon une sorte de moyen de discréditer, de noter le crédit des hommes politiques.
Donc, juste pour résumer d'un mot, et puis nous reprenons cette conversation après la revue de presse, Christian Salmon, pour bien comprendre, le passage du storytelling à l'ère du clash, pour vous, ce serait le passage, disons, de la littérature ou du romanesque au tweet?
C'est le tweet qui remplace la story. Je mettrai pas la littérature là-dedans, mais en tout cas l'instrumentalisation de la littérature sous forme de récits et sous forme de petites histoires cède la place au tweet qui clash, au tweet qui fait du buzz, et donc on a cette espèce de dynamique nouvelle qui s'avance à coup de clash plutôt qu'à coup de récit. Et le clash, je dirais, c'est l'instrument qui permet le discrédit, qui correspond au discrédit, alors que l'histoire est l'instrument justement de la confiance. Il n'y a pas d'histoire sans la confiance dans le narrateur.
Et on va vous demander quelles conséquences pour vous de cet art du clash. Il est 8h30 sur France Culture. Christian Salmon, Emmanuel Macron, c'est sans doute une figure intéressante pour analyser ce passage du storytelling à l'ère du clash. Emmanuel Macron a tenté d'installer une présidence jupitérienne. Vous parlez de l'avènement d'un monde, enfin lui, surtout parlait d'avènement d'un monde nouveau, mais vous parlez-vous d'une entreprise mythographique avec beaucoup de contradictions. Qu'est-ce que vous pensez de ce moment d'Emmanuel Macron qui lance un grand débat national, qui fait un marathon de 15 heures à 2 jours d'écart devant les maires pour essayer de rattraper un temps perdu? Enfin, comment regardez-vous toute cette séquence-là?
Je pense qu'il est dans la spirale du discrédit, dans ce que j'appelle la spirale du discrédit, c'est-à-dire que lorsque il a une élection qui, contrairement à ce qu'on a pu dire, n'était pas un ralliement très important. Certes, le score était important, mais c'est encore un vote négatif. C'est un vote d'opposition à la candidature. Bon,
pas pour tout le monde quand même.
Pas pour tout le monde, mais il y a 20%.
Il y a eu un vote d'opposition.
C'est 20% qu'on retrouve encore dans les sondages, qui constitue la base cohérente de son électorat. Mais le fait est que on voit bien, c'est très intéressant ce débat permanent en fait. Hein, c'est-à-dire que le crédit doit être recherché dans la communication, dans le contact, dans la crédibilisation, dans des sortes de performances absolument hallucinantes. On pourrait dire qu'il a un président de la République a autre chose à faire que de faire des grands débats tous les deux jours pendant des heures et des heures à la façon d'un Castro néolibéral. Hein, on voit bien que l'objectif, c'est de recrédibiliser la parole. Parce que comment faire dans la situation de crise actuelle? D'un côté, vous avez les manifestations qui s'éternisent et qui vont s'éterniser d'acte en acte, de samedi en samedi. C'est le coup de génie des Gilets jaunes. C'est-à-dire que, vous savez, ces grandes manifestations de 200 000, 300 000 personnes qu'on avait épuisaient les gens aussi. Et donc, on avait une grande manifestation et puis tout le monde reprenait le boulot et rentrait chez soi. Là, on a une sorte de pour le coup, de dramaturgie, de dramatisation du conflit avec le président, avec une cible qui est le président. Et donc, il y a une sorte de course-poursuite entre les Gilets jaunes et le président pour le crédit. C'est une sorte de... les Gilets jaunes misent sur le discrédit du président, sur la chute de sa popularité, et pourquoi pas la chute du régime. Le président spécule sur la fin du mouvement. Et donc, dans cette course-poursuite, dans cette confrontation spéculative, et non pas qui n'ont pas pour but la négociation. C'est ça qui est frappant. On a parlé de Grenelle, des Gilets jaunes, mais il n'y a pas de Grenelle là. Parce que les revendications, il n'y a pas pour un Grenelle, il faut des représentants, il faut des cahiers de revendications, etc. Là, on n'a pas tellement ça. On a une spéculation qui va provoquer l'effondrement de l'opinion. Et d'ailleurs, les uns et les autres, les Gilets jaunes scrutent la popularité du président et espère la faire baisser et la font baisser, et le président scrute le soutien que le mouvement des Gilets jaunes a dans la population.
Mais vous dites, Christian Salmon, qu'il est sa présidence est grevée d'une contradiction périlleuse. Je vais lire ce petit paragraphe que vous consacrez à Emmanuel Macron dans un vaste chapitre. Hein, mais vous dites rhabiller le start-upper en Rastignac. Il prétend construire une start-up nation avec des méthodes monarchiques héritées de l'ancien régime, concilier la verticalité du pouvoir et le néo-management qui prône une hiérarchie souple et flottante, croiser De Gaulle et Xavier Niel. Il veut réhabiliter la primauté du politique au nom d'un néolibéralisme qui justement met fin partout à l'exercice du pouvoir politique. Et là, vous l'avez écrit avant le mouvement des Gilets jaunes, cette contradiction inhérente. Alors c'est le en même temps hein, d'Emmanuel Macron. Mais compte tenu de ce qui est en train de se passer et compte tenu de votre analyse plus large de l'évolution du monde, quand vous partez des États-Unis, l'élection de Donald Trump, que vous ramenez en Europe à la crise européenne, à la crise grecque, à ce qui s'est passé en Italie, et que vous analysez la victoire d'Emmanuel Macron et maintenant près de 20 mois de présidence, par rapport à cette analyse qui est la vôtre de l'entrée dans l'ère du clash, que vous dites-vous ?
Je dirais que l'élection de Macron n'ouvrait pas une nouvelle phase.
L'avènement d'un monde nouveau, mais en fait, il fait de la vieille politique.
Bien au contraire, c'est la dernière page d'un président narrateur qui prétend, avec un grand récit, rendre compréhensibles ses réformes. Mais en fait, l'agenda, c'est l'agenda néolibéral. Et la grande histoire, c'est l'histoire monarchique. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre cette sorte de néolibéralisme aggravé qui était déjà dans l'agenda français depuis Sarkozy en passant par Hollande, lui radicalise cet agenda néolibéral et en même temps développe une histoire. Donc si vous voulez, vous l'avez très bien cité dans l'extrait, il y a une contradiction, mais une contradiction de fond entre un imaginaire monarchique avec un agenda néolibéral, le start-upper de Gaulle. Toutes ces contradictions ont aggravé le discrédit. C'est-à-dire que Macron a été, moi je l'avais perçu dès sa prise de fonction, avec cette théâtralité qui a été de mise le soir de son élection devant la pyramide. On voyait bien là qu'il y avait quelque chose de forcé, qu'il y avait quelque chose d'archaïque. Hein. Et même dans l'imaginaire narratif, je le raconte aussi dans le livre, c'est-à-dire les images les formes de récit auxquels il se réfère, sont des formes très archaïques. Ce n'est pas dans le roman moderne, ce n'est pas dans le roman contemporain, c'est dans des vieilles formes balzaciennes, des images de la vieille France. Donc la monarchie, l'imaginaire monarchique va avec un imaginaire littéraire complètement archaïque.
Vous voyez, je vous parlais de littérature tout à l'heure, vous y revenez vous-même, Christian Salmon. Qu'est venu faire l'affaire Benalla au milieu de tout ça?
Alors, l'affaire Benalla, elle est surprenante parce que c'est une sorte de levée de rideau du mouvement des Gilets jaunes. On l'a pas vu tout de suite, mais moi, je m'étais interrogé au mois d'août dans un article de Mediapart sur sur la signification. Pourquoi cet incident, on pourrait dire, d'un conseiller du président qui se retrouve dans la rue le 1er mai à faire le coup de force, à frapper des manifestants? Pourquoi cet incident qui aurait pu être sanctionné par une exclusion, par une mesure disciplinaire, devient une affaire d'État? Eh bien, je pense que il y avait dans la manière dont Benalla descend du sommet du pouvoir de l'Élysée dans la rue, il y a une sorte de, comment dire, discrédit, encore une fois, de la fonction présidentielle. Parce qu'il est partout sur les images, aux côtés du président Macron. Et donc, lorsqu'on le voit en train de frapper un manifestant avec cette violence ostentatoire, qui était presque c'était presque du cinéma ou du théâtre, hein, c'était du catch, en fait, la manière dont il s'en prend à ce manifestant, eh bien, cette violence ostentatoire disait quelque part quelque chose, la vérité du régime. Cette vérité était violence. C'est ça qui est apparu. C'est-à-dire que l'image d'un président qui veut forcer la société et qui en fait un spectacle. On est dans la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, avec les violences policières, a montré que l'acte inaugural de l'affaire Benalla allait se manifester maintenant dans les violences policières tous les samedis.
Christian Salmon, je voulais vous demander quelles étaient pour vous les conséquences de cette ère du clash que vous nous annoncez comme actuelle. Nous sommes entrés dans l'ère du clash, nous dites-vous dans ce nouveau livre. Quelles seraient les conséquences? Quelles en sont les conséquences? La violence? Le conflit? Le chaos? La confusion?
Dans un premier temps, c'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué dans l'entretien, mais qui est aussi l'emprise des GAFAM. C'est-à-dire que tout l'univers du débat...
Les géants du net. Google, Amazon, Facebook.
Et les big data et le traitement. J'ouvre le livre sur cette question qui est une sorte de prise de pouvoir sur le possible. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, les GAFA l'ont prévu. Vos secrets les plus intimes, vos pulsions les plus secrètes sont déjà captées à travers les big data par ces machines énormes qui vont vous proposer. C'est-à-dire notre inconscient, si je puis dire, n'est plus sous nos pieds, comme dans la métaphore freudienne de la maison à trois étages, vous savez, le ça, le moi, le surmoi. Mais non, nous sommes encerclés par notre inconscient, à travers le feedback des GAFA. On a donc un phénomène où cette entropie de l'expérience, le fait que nous soyons encerclés par nos propres pulsions, crée les conditions d'une violence systémique.
Et du clash.
Et du clash. C'est-à-dire qu'on ne s'exprime plus que par la violence, parce que l'espace de la discussion s'est rétréci jusqu'à ses extrémités, et que donc la seule manière de s'exprimer, d'une certaine manière, c'est de clasher. C'est-à-dire d'exprimer par la violence ce qui ne peut pas être exprimé par la symbolisation, par les histoires, par la narration.
Bon, bah, bienvenue en 2019, hein, Christian Salmon. Vous nous annoncez le discrédit, la conflictualité. Combien de temps ça peut durer, tout ça?
C'est difficile.
Vous faites des cycles de 10 ans en 10 ans, hein, donc bon, on en a pour 10 ans.
En tout cas, je pense que ça dépendra de la manière dont nous accueillons cette ère du clash et dans la manière dont nous nous situons. On voit déjà avec les gilets jaunes que les conditions de la contestation, de la délibération changent complètement. Qui aurait pu dire que les ronds-points se transformeraient en petite assemblée populaire il y a seulement 6 mois? Donc des choses sont en train de changer. Je pense qu'on peut les influer à condition de comprendre ce qui se passe, à comprendre qu'on est passé des 30 glorieuses, c'est-à-dire d'une certaine manière d'un grand récit social-démocrate, au néolibéralisme qui connaît aujourd'hui ses contradictions les plus fortes. Et qu'il faut passer en quelque sorte d'autres formes politiques de représentation, d'autres formes de revendications, et peut-être abandonner les petites histoires et reprendre les grandes idées.